Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Vous pouvez entendre que l'indicatif n'est pas habituel, puisqu'en effet, c'est un indicatif spécial pour une émission spéciale, puisque vous avez sûrement entendu la bande-annonce qui est diffusée sur notre antenne depuis plusieurs jours. Ce soir, À toi les étoiles, fête ses 10 ans. C'est en effet le 15 décembre 2004 qu'a lieu la première émission d'À toi les étoiles. Et à cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale qui a eu lieu non pas dans les studios d'IDFM à Enghien-les-Bains, mais au château de la Doucette à Drancy, avec du public. Dans ce château, il vous est proposé jusqu'au 4 janvier 2015 une exposition sur les drones, robots et imprimantes 3D. Je remercie d'ailleurs la municipalité de Drancy et l'association Sciences Ouvertes de nous accueillir. Nous en reparlerons d'ailleurs en fin d'émission. Vous savez que je débute toujours mes émissions en disant que la marraine et le parrain d'À toi les étoiles vous souhaitent la bienvenue. Là, je ne l'ai pas fait car on ne pouvait pas fêter les 10 ans d'À toi les étoiles sans leur présence. Et ils sont là en personne, ils vont donc vous souhaiter eux-mêmes la bienvenue. Honneur aux femmes, on va commencer par la marraine, Danielle Briot, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Bonsoir.
Bonsoir. D'abord, je suis très fière d'être la marraine de l'émission À toi les étoiles, qui, je sais, est très écoutée donc, par tous les amoureux de l'astronomie et de l'astronautique. Et alors bienvenue. Et puis, je trouve que c'est un très très beau succès d'être arrivé au 10e anniversaire et qui, bien entendu, sera suivi de beaucoup, beaucoup de dizaines.
Et puis, nous avons le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Bonsoir.
Bonsoir. Très heureux de participer à cette émission. Déjà une décennie. Vous allez voir qu'une décennie en astronomie et dans le spatial, il s'est passé beaucoup de choses et on avance à vitesse grand V.
Pour les 10 ans d'À toi les étoiles, il me fallait trouver un thème. Et puisqu'À toi les étoiles fête ses 10 ans, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une rétrospective des événements marquants qui se sont produits en 10 ans en matière de découvertes et avancées technologiques dans le domaine du spatial. Le thème de ce soir est donc rétrospective 10 ans d'aventure spatiale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour célébrer les 10 ans d'À toi les étoiles, sachez, chers auditeurs, que nous allons vous gâter en vous proposant de gagner plein de cadeaux. Vous pouvez d'ailleurs, dès maintenant, appeler au 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22. Le standard est ouvert. Il y a quelqu'un qui est là et qui attend vos appels. Vous pourrez gagner notamment des livres, des abonnements et autres cadeaux en rapport avec l'astronomie. Alors n'hésitez surtout pas. On va démarrer avec Danielle Briot, qui est spécialiste dans les exoplanètes. Alors, est-ce qu'on pourrait d'abord faire un résumé de ce qui s'est passé en matière d'exoplanètes, de découverte d'exoplanètes en 10 années ?
L'exoplanète, c'est quelque chose de très, très fascinant. Bon, je travaille sur les exoplanètes et la recherche de la vie dans l'univers. Depuis très longtemps, on se demandait, est-ce qu'il y a d'autres mondes ? Est-ce qu'il y a... Et puis, alors après, quand on a su que les étoiles étaient des soleils comme les nôtres, on a tout pensé, donc, dès le XVIIe siècle, qu'elles pouvaient avoir des planètes et que... Mais entre le moment où on dit peut-être que et le moment où on découvre vraiment, alors ça, c'est tout à fait la différence. C'est ce qui s'appelle une idée et puis une découverte scientifique. Et la première exoplanète a été découverte donc en 1995 et à l'heure actuelle, on en a près de 2000. Enfin, et c'est complètement fascinant à quel point ce domaine de l'astronomie a été vraiment extraordinairement fécond. Et on a vraiment l'impression que les découvreurs, donc c'était Michel Mayor, Mayor et Queloz de Suisse, on a l'impression qu'ils ont ouvert la porte et la digue, l'eau a jailli. C'est absolument incroyable à quel point tout un nouveau domaine de l'astronomie a été ouvert et s'est développé et qui a entraîné aussi donc les programmes de recherche de vie dans l'univers. Les débuts, ça a été très lentement, mais maintenant, on a fait des quantités d'instruments, des télescopes et des instruments spéciaux, et puis des satellites. Et alors là, évidemment, quand on a des instruments complètement adaptés, les découvertes vont très, très vite.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler durant cette rétrospective. On va essayer de faire de manière chronologique, et on va commencer tout d'abord par l'année 2004. On sait que le 2 mars 2004, il y a eu le lancement de la sonde spatiale Rosetta, Jean-François Pellerin.
Alors Rosetta, c'est un projet qui a été décidé il y a une bonne vingtaine d'années, et c'était le lancement de la fameuse sonde dont vous avez entendu parler, qui a fait la une pendant plusieurs semaines, avec l'arrivée le 6 août, après 10 ans de voyage de la sonde autour de la fameuse comète Chury. C'est son petit nom, je ne vous donne pas le nom complet parce qu'il est très compliqué. Et ensuite, le 12 novembre, on a eu la descente du petit atterrisseur Philae.
On continue sur cette année 2004, et puis on a eu un événement le 8 juin 2004, c'est la planète Vénus qui est passée juste devant le disque solaire. Le même phénomène a été prévu aussi en 2012. Peut-être auriez-vous quelque chose à dire pour réagir alors, sur ce sujet, Mme Brio ?
Oui, alors les passages de Vénus devant le Soleil ont lieu deux fois en un peu plus d'un siècle, et les deux fois sont séparés soit par 8 ans, soit par 11 ans. Et à un moment, quand on a découvert ça, on s'est rendu compte peu à peu qu'on pouvait, si on observait le passage de Vénus depuis deux points éloignés de la Terre, avec une extrême précision, on pouvait déterminer les distances dans le système solaire. Et alors, une fois qu'on a une distance, à partir des lois de Kepler, on peut avoir toutes les autres distances. Donc c'est complètement fondamental, et toutes les distances dans l'univers, la base, c'est la distance de la Terre au Soleil. Alors, ça veut dire que peu à peu, on arrive jusque, je ne peux pas dire le confin de l'univers, parce que l'univers est infini, mais toute l'astronomie jusqu'à la cosmologie est basée sur les distances du système solaire. Donc, c'était complètement fondamental.
J'aurais juste dit une petite chose qui marque les 10 ans, qu'on aurait pu dire juste pour l'année 2004, les débuts d'un vaisseau de tourisme spatial, Spaceship One, avec Mike Melville, où on fait monter de façon symbolique et de façon même physique un homme à plus de 100 km d'altitude. Vous savez que juridiquement, on parle de cette fameuse barrière, on a l'étoile d'astronaute, on devient astronaute au-delà de 100 km, et ils ont gagné un prix financier puisqu'ils sont montés à 8 jours d'intervalle, une fois à 102 et une fois à 111 km d'altitude. Et c'est une entreprise qui développe des technologies dans les matériaux composites, Scale Composite, dirigé par Bud Rutan. Et actuellement, on travaille sur le Spaceship 2 de Richard Branson, qui est un peu la suite.
Alors, on passe ensuite à l'année 2005. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a vécu, Jean-François Perrin l'évoquait il y a un instant, l'atterrissage de Philae sur une comète. Mais on a eu un événement aussi important en janvier 2005, puisque le module Huygens de l'Agence spatiale européenne s'est posé sur Titan, le plus gros satellite de Saturne.
Alors effectivement, c'est à pratiquement 10 ans d'intervalle, l'Agence spatiale européenne a fait deux grandes premières mondiales. Et c'est une fierté pour l'ESA. Donc se poser 1,2 milliard de kilomètres de distance, imaginez les connexions, les communications, c'est plus d'une heure pour recevoir un signal. Donc on s'est posé sur Titan, une lune de Saturne. Donc c'est l'endroit le plus lointain dans le système solaire où on a posé un objet artificiel sur un autre monde. Donc c'est quelque chose qui va rester dans les annales comme une grande première de cette époque-là.
Et Daniel Brio ? Oui, si je raconte, il faut raconter. Alors, là, avec Jean-François, on se complète vraiment parce que lui, il est plus spécialiste d'astronautique. Et c'était très important de se poser sur Titan parce que c'est le seul satellite du système solaire qui a une atmosphère. Et on voulait vraiment percer cette atmosphère, poser un engin, étudier ce qu'il y avait en dessous et est-ce qu'il y a la vie sur Titan. C'est pas du tout quelque chose qu'on a pris au hasard. Bon, c'est toujours très intéressant d'étudier un objet astronomique, mais Titan avait cet intérêt en plus.
Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a vraiment la vie sur Titan, non ?
Ah non, ça vous l'auriez su.
Oui.
Vous l'auriez su. Ça, c'est une. On est toujours en train d'attendre les résultats. On a découvert des lacs, des lacs de méthane ou d'éthane ou des choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de vie qui soit différente ? Voilà, pour l'instant, non, on a toujours un énorme point d'interrogation.
Alors, on passe à l'année 2006 et on a le 15 janvier 2006 la sonde spatiale Stardust qui revient sur Terre. Alors là, un événement important aussi, Jean-François Pellerin.
Alors Stardust, c'était de ramener de la poussière d'un cométaire. Et c'était une grande première, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les seuls éléments non terrestres qu'on a ramenés, c'est les 380 kilos de roches lunaires. Et là, on a ramené quelques poussières. Donc c'était une grande étape aussi très importante, de même que l'actualité. Par exemple, en ce moment, les Japonais viennent d'envoyer une sonde pour aller sur un astéroïde ramener des échantillons de la poussière d'un astéroïde. Donc ça, c'est très important. Madame Briot peut peut-être plus répondre sur ces petits corps célestes que sont à la fois les astéroïdes et les comètes. Ça nous apporte des informations sur l'origine très probablement du système solaire.
Oui, alors ça prend évidemment beaucoup d'importance. Le système solaire, c'est quelque chose d'évidemment d'assez compliqué. Il y a l'étoile Soleil et puis les planètes. Et puis alors maintenant, on découvre de plus en plus d'objets plus petits, énormément. Et puis il y a tous ces petits corps très petits qui peuvent être toute cette poussière qui arrive sur Terre. Et les comètes, on dit, ça donne des informations sur l'origine du système solaire parce qu'elles ont passé une grande partie de leur vie loin du Soleil, sans érosion, sans évolution. Mais il y a toujours l'idée aussi de voir, est-ce que la vie est née sur Terre ou est-ce que la vie vient d'ailleurs? Et ça, c'est complètement fondamental. On ne sait pas comment ça a commencé. Et une fois qu'on aura la réponse, eh bien là, ça sera fantastique. Ça sera une découverte extraordinaire. Alors, on n'a toujours pas la réponse. Donc, ce qu'on appelle la panspermie, c'est le mot pour dire, est-ce que la vie a été essaimée sur la Terre? Est-ce qu'elle venait d'ailleurs? Alors, évidemment, les comètes et les météorites seraient des vecteurs particulièrement probants pour ça, particulièrement efficaces. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut chercher. Et c'est aussi pour ça que, quand la sonde s'est posée sur la comète là, Chury, l'idée, c'était aussi de rechercher ce qu'est la composition de la comète, étudier ça et voir est-ce que la vie vient des comètes sur Terre.
On continue donc avec cette année 2006, et puis on a eu le lancement, Jean-François Perrin, de la sonde spatiale New Horizons.
New Horizons, c'est d'ailleurs d'actualité, puisqu'elle arrive à la proximité de Pluton l'année prochaine. C'est certainement l'une des sondes les plus rapides qu'on ait envoyées dans le système solaire, puisque en une dizaine d'années, on va enfin pouvoir approcher de très près de Pluton, qui, vous le savez, a été déclassifié il y a plusieurs années. Vous savez que maintenant, quand on dit système solaire à l'école, les scolaires, on leur explique qu'il y a 8 planètes. Pluton n'est plus la 9e planète, compte tenu de sa taille. On avait survolé toutes les planètes, notamment avec les voyageurs 1 et 2. Et l'année prochaine, New Horizons viendra à proximité de Pluton.
C'est là qu'on voit que le temps passe quand même, parce que ça paraissait hier encore le lancement de cette sonde.
On avait les planètes, alors Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, connues depuis donc l'Antiquité. Ensuite, un astronome anglais, Herschel, au XVIIIe siècle, découvre Uranus. Alors, au début, il croit que c'est une comète, parce que c'est le seul astre qu'on connaissait qui apparaissait, qui disparaissait. Puis on s'est rendu compte que c'était une planète. Et puis on s'est rendu compte que les mouvements d'Uranus ne s'expliquaient pas bien. Il y avait donc un corps perturbateur, et on a recherché, et ça a été trouvé donc par un Français, Le Verrier, qui a découvert la planète Neptune. Et puis ensuite, alors, est-ce qu'il y a une autre planète? Alors, des mécènes américains qui se sont attaqués au problème, et on a recherché, et puis finalement, un jeune américain, Tombeau, a trouvé donc une planète. Alors, on avait la 9e planète, on était pas très content quand même, parce qu'elle était un peu différente des autres. Elle n'était pas exactement dans le même plan que les autres planètes. Les autres planètes avaient une trajectoire circulaire, celle-là avait une trajectoire elliptique. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle était quand même pas très grosse. Hein. Alors, il y avait déjà eu la même chose au début du 19e, parce qu'on cherchait une planète entre Mars et Jupiter, et puis on a trouvé des planètes, on en a trouvé beaucoup trop, on a appelé planètes et après astéroïdes. Et puis, on a trouvé d'autres objets dans le système solaire, et puis finalement, on a trouvé qu'ils étaient plus gros que Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les appelle des planètes? Est-ce qu'on décide qu'il y a des milliers de planètes? Comment définir une planète? Alors, c'est très compliqué. Les astronomes ont discuté très longtemps pour ça. Et finalement, on a décidé donc que Pluton n'était pas une planète et qu'il y avait 8 planètes dans le système solaire. Mais la définition n'est donnée que pour le système solaire. Et en particulier, à un moment, dans les discussions qui ont lieu à Prague, c'était donc l'Union astronomique internationale en 2006, un des arguments était que Pluton avait une trajectoire allongée. Bon, heureusement, on n'a pas gardé cet argument-là, parce que les planètes extrasolaires peuvent avoir des trajectoires allongées. Et ça, c'est pas très facile à expliquer encore. Et ça a été une des surprises des découvertes des planètes extrasolaires.
On poursuit. Alors, on parle un peu de la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter, qui devient le quatrième satellite artificiel en activité autour de Mars.
Et qui est toujours en activité, puisqu'elle a filmé même la descente sous parachute de Curiosity le 6 août 2012. Donc actuellement, il y a beaucoup de monde autour de Mars. C'est un peu les embouteillages, pour prendre une expression. Actuellement, on a une demi-douzaine d'engins autour et sur la planète Mars. On a deux rovers qui fonctionnent au sol. Le Spirit qui est arrêté déjà depuis un certain temps. Donc il y a Opportunity depuis 10 ans. Et il y a depuis 2 ans le rover Curiosity. Il y a le MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Et on a Mars Express aussi, des Européens, qui est en orbite aussi depuis 10 ans. Et comme il y a un échange de données, s'il y avait un problème de panne de moyens de communication, on pourrait faire un backup et passer sur d'autres relais autour de Mars.
Alors nous passons ensuite à l'année 2007 et cette année-là, on célèbre les 50 ans de la conquête spatiale, Jean-François.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on était ensemble pour la fameuse émission du cinquantenaire.
Tout à fait.
Donc les 50 ans du Spoutnik, pour ceux qui se souviennent du Spoutnik, c'était un peu ce qu'on appelait le Pearl Harbor technologique. C'est celui qui a déclenché toute cette grande aventure de l'espace, cette course à l'espace entre américains et soviétiques. C'était un petit satellite de 83 kilos avec deux petits émetteurs de radio et qui a fonctionné pendant un certain temps. Et juste quelques semaines plus tard, vous avez le deuxième Spoutnik qui emmènera un chien dans l'espace, une chienne, Laika. Donc on peut dire qu'il s'est écoulé plus d'un demi-siècle d'exploration spatiale au moment de cette année 2007, où ça permet très souvent de faire un bilan. C'est ce qui s'est fait pendant cette année 2007.
Alors on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale. Et vous savez, je vous en ai parlé depuis plusieurs mois, j'ai ouvert une ligne téléphonique, le répondeur d'À toi les étoiles. Alors juste avant cette pause musicale, eh bien on va écouter quelques messages d'anciens invités d'À toi les étoiles qui ont laissé des messages sur le répondeur. Ensuite nous aurons la pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite.
Décembre 2004, décembre 2014, À toi les étoiles, fête ses 10 ans.
Bonjour et bon anniversaire à toi les étoiles. Le 12 avril 2011, pour le 50e anniversaire du vol cosmique de Yuri Gagarin, j'avais été convié à votre émission comme auteur d'une biographie sur le premier cosmonaute de l'humanité, ce Christophe Colomb de l'espace. Et je garde un souvenir solaire et même stellaire de votre petite émission, tout en passion, en liberté, en ambition aussi. Un vrai petit planétarium radiophonique, voilà ce que vous êtes. 10 ans est un âge magnifique, qui est à la fois preuve de jeunesse et de sagesse. Je souhaite à tous les passionnés, dans quelque domaine que ce soit, d'avoir une radio comme la vôtre. Faites des petits, des envieux, des habitués, des émules, des fidèles, des auditeurs surtout, beaucoup d'auditeurs. J'espère que les vœux d'anniversaire vont pleuvoir comme des météorites par une nuit d'août. C'était Yves Gauthier, en toute simplicité, en toute sincérité. Bienvenue dans l'âge des deux chiffres. Bon anniversaire, à toi les étoiles.
Bonjour, je suis Alain Vienne, directeur de l'Observatoire de Lille. Pour ces 10 ans d'émission mensuelle sur l'astronomie, le spatial et tout ce qui gravite autour, si j'ose dire, j'ai le plaisir de féliciter Franck Menant. Et bon anniversaire à l'émission À toi les étoiles.
Bonjour, c'est Gilles Davievitch de la Société Astronomique de France. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à toi les étoiles. Bravo à toute l'équipe, bravo à Franck Menant. Merci, merci pour tout ce travail et toute cette passion. Bravo, car ce n'est pas de la vulgarisation scientifique, c'est véritablement de la promotion des sciences astronomiques et astrophysiques et astronautiques. Bravo pour décrypter l'actualité, bravo pour ces dizaines d'invités qui témoignent mois après mois depuis 10 ans. Donc vraiment, fantastique, félicitations pour toute cette énergie, tout ce temps passé au service de la connaissance et du progrès. Bravo Franck, bravo IDFM et à très vite. Allez, bon anniversaire. Gilles Davidovitch, Société Astronomique de France, vive l'astronomie. Happy birthday.
IDFM, 98 FM en Ile-de-France.
Décembre 2004, décembre 2014, à toi les étoiles, fêtes ses 10 ans.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. En d'autres mots, bravo Franck pour votre émission À toi les étoiles, 10 ans c'est quand même quelque chose. Merci encore pour votre invitation et pour cette belle émission. C'était Sébastien Sanz de la société Inviter les étoiles. À bientôt Franck.
C'est particulièrement émouvant de fêter les 10 ans de À toi les étoiles. Presque simultanément d'ailleurs avec le survol par Rosetta de la comète Churyumov-Gerasimenko 67P et de l'atterrissage de son petit robot sur son noyau. Les auditeurs de À toi les étoiles, je félicite d'être fidèles à cette manifestation astronomique destinée au grand public, ont participé pleinement à cet événement grâce à l'excellente programmation de l'émission. Qu'il me soit permis de féliciter à cette occasion mon ami Franck Menant, créateur et animateur de cette émission, pour son dévouement et son implication permanente, essentielle de chaque instant à son grand succès. Aujourd'hui, À toi les étoiles fait partie de notre univers aux côtés des autres médias. Hélas, pas assez nombreux qui mettent l'astronomie à la portée de tous. Bravo à vous, cher Franck. Bravo à tous ceux qui vous ont aidé à créer ce moyen unique de diffusion de la science, du savoir, et maintenu présent la curiosité et le rêve tout au long des émissions. Je souhaite pour votre émission 10 prochaines années de succès à la mesure de ceux qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. 1000 fois bravo, continuation, on vous aidera à l'alimenter et à la maintenir en pleine forme. Roger Maurice Bonnet, ancien directeur de l'Agence spatiale européenne de 1983 à 2001.
Ceci est un message de Pierre-François Moriot, webmaster du Cosmopif, président de l'association Histoire d'espace, auteur et invité régulier de l'émission À toi les étoiles. À toi les étoiles, 6 ans, très bel anniversaire à cette émission, aujourd'hui, je crois, unique sur les ondes françaises. Bravo à notre animateur, Franck Menant, pour ce rendez-vous passionné d'astronomie et d'astronautique. Bravo pour la variété des sujets proposés, bravo pour la qualité des intervenants et longue vie à l'émission À toi les étoiles. Joyeux anniversaire.
Retour ici au château de la Doucette pour cette émission À toi les étoiles où on célèbre les 10 ans d'À toi les étoiles et je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui est rétrospective 10 ans d'aventure spatiale. Pour célébrer les 10 ans d'À toi les étoiles, sachez chers auditeurs que nous allons vous gâter en vous proposant de gagner plein de cadeaux. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant appeler au 01 34 12 12 22. Le standard est ouvert, il y a quelqu'un qui est là et qui attend vos appels. On arrive sur l'année 2008 et cette année-là, la NASA et l'Agence spatiale européenne prolongent la mission d'exploration de la planète Saturne et de ses satellites par la sonde Cassini.
Oui, c'est vrai que ça arrive régulièrement que des décisions sont prises pour prolonger des missions spatiales. Je vais prendre un exemple. Opportunity qui est sur Mars, le rover qui roule depuis 10 ans sur Mars. Au départ, on donnait des durées de vie d'environ 6 mois à ces engins-là. Imaginez que 10 ans plus tard, il est toujours en vie. Donc on se retrouve confronté à un moment donné, c'est qu'on a une électronique tellement fiable et des équipements qui continuent à fonctionner. Donc il y a des décisions budgétaires qui se prennent pour pouvoir reporter de plusieurs années les travaux de recherche et de continuer à capter les signaux et à analyser les données en provenance de la sonde. Alors la question s'est posée notamment sur les voyageurs 1 et 2 qui ont été lancés dans l'espace il y a plus de 30 ans.
Cette année-là aussi, toujours sur l'année 2008, on a l'atterrissage de Phoenix près du pôle nord de Mars.
Ça fait partie d'une politique d'exploration de Mars. où on s'est intéressé un petit peu à tous les secteurs, que ce soit les pôles, que ce soit d'autres sites. Par exemple, en ce moment, Curiosity est à côté du Mont Sharp et vient de faire plusieurs kilomètres pour approcher de ce site. On s'est aperçu que c'était un site qui ressemble à quelque chose près, certainement à un grand fleuve ou à un ruisseau, puisqu'on a retrouvé des genres de graviers ou de petits galets, avec un phénomène d'érosion, où on a des cailloux ronds. Donc Mars est certainement la planète la plus bombardée, entre guillemets, de robots, de rovers, de sondes, bien que quelquefois il y ait des échecs, mais on n'a jamais autant lancé autant d'engins pour la planète rouge.
C'est une planète qui est connue maintenant avec tellement de détails qu'en fait, depuis déjà des années, ce sont des géophysiciens ou des géologues qui travaillent sur Mars, en plus des astronomes. Il n'y a pas que l'intérêt scientifique de faire progresser la connaissance, mais bien entendu, il y a toujours l'idée de savoir est-ce qu'il y a eu la vie sur Mars. Il y a eu de l'eau sur Mars, c'est sûr, on voit bien justement les cailloux. On peut prédire des tas d'informations sur la rivière qui a poli ces cailloux. Et pourquoi il n'y a plus d'eau sur Mars maintenant, ça c'est un problème. Alors évidemment, pour rechercher la vie, Curiosity a été fait pour ça, pour gratter le sol et voir est-ce qu'il y a une vie souterraine sur Mars.
On s'est intéressé à la surface, mais depuis quelques années, on s'intéresse au sous-sol de Mars et on fait des petits forages. Et c'est le cas notamment dans l'actualité aujourd'hui. Depuis 2 ans, Curiosity fait régulièrement des forages de quelques centimètres de profondeur, mais ce qui nous intéresserait, c'est de descendre beaucoup plus profond dans le sous-sol. C'est pour ça qu'on prépare la sonde Mars InSight, prévue dans 2 ans, qui, elle, pourra faire des forages beaucoup plus profonds dans le sous-sol de Mars. Dans le domaine du vol habité, on a un Français, Léopold Eyards, qui vole à bord de la Station Spatiale Internationale et qui va mettre en route et activer le fameux module Columbus, qui est arrivé quelques semaines auparavant. Columbus, c'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui, nous Européens, qu'on est copropriétaires de la Station Spatiale Internationale, une structure de plus de 400 tonnes. Il y a des modules russes, il y a des modules américains, il y a 16 nations. Et nous, on a un module qui même fait plaisir beaucoup aux astronautes, parce qu'au niveau volume, ça représente près de 50 mètres cubes. Donc il y en a régulièrement qui vont travailler à bord ou faire un break, faire une pause, aller se reposer dans le module. Donc c'est un peu une pièce qu'on a mis en plus sur la station ISS, qui nous permet de dire qu'on a une partie de la station qui appartient à l'Europe. Et dernière chose, on a le premier véhicule ATV, véhicule de transport automatique, qui s'appelle Jules Verne, qui permet de faire des ravitaillements et d'amener plus de 7 tonnes de fret, de carburant, de l'eau pour les astronautes, un certain nombre d'équipements scientifiques. Et il y a eu plusieurs vols ATV, il y a eu au total 5 vols ATV, le premier donc était en 2008, c'était l'ATV Jules Verne.
Et puis on notera aussi en octobre, on a célébré les 50 ans de la NASA, en octobre 2008.
Ah oui, et puis dernière chose, vous savez que le premier cosmonaute qui a marché dans l'espace s'appelait Leonov, il y a pratiquement 50 ans. Et bien fin 2008, le troisième pays du monde qui est capable d'avoir un Leonov, c'est la Chine qui fait marcher un homme dans le vide spatial, c'est à la fin de l'année 2008.
Alors nous passons maintenant à l'année 2009, alors une année importante pour l'astronomie puisque l'UNESCO avait déclaré l'année 2009 année mondiale de l'astronomie. Il y a eu beaucoup de manifestations dans cette optique et puis il s'est aussi passé des choses intéressantes en 2009, Jean-François Perrin.
Pour moi déjà, c'est bon, je suis toujours un peu rattaché aux anniversaires, c'est les 40 ans d'Apollo 11 et c'est certainement l'une des dernières fois où on verra les 3 astronautes posé en photo avec le président des États-Unis. Et à chaque fois, on se pose un peu la question, ça fait 40 ans. Ensuite, on s'est dit, ça fait 45 ans et on n'est pas revenu sur la Lune. Donc, ça pose la fameuse question, si vous avez suivi l'actualité, de cette volonté américaine de relancer un peu cette grande course, puisqu'il y a quelques jours, vous avez vu qu'avec leur programme Orion, ils sont montés à très haute altitude, ils ont démontré qu'ils étaient capables de revenir pratiquement à une vitesse comme s'ils avaient été sur la Lune. Donc on reverra des équipages très prochainement, au début des années 2020, autour de la Lune. Pourquoi ? Parce que les Américains ont très peur d'une chose, c'est de voir arriver dans les années 2025-2027 le fameux drapeau chinois sur notre satellite naturel.
Juste un petit mot là sur l'année mondiale de l'astronomie. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On a essayé vraiment, en France et dans tous les pays du monde, de faire des choses de popularisation de l'astronomie. En France, on a fait au moins une conférence par jour, tous les jours de l'année au moins, puis beaucoup, beaucoup de manifestations. Au niveau international, l'Union Astronomique Internationale donc a essayé donc de faire des choses vers les pays sous-développés. On a l'impression d'un grand élan d'enthousiasme de tous les astronomes professionnels du monde entier pour profiter de cette année mondiale pour faire découvrir encore plus leur discipline. L'année 2009, oui. la sonde Cassini a montré qu'Encelade, un satellite de Saturne, a un océan d'eau sous la surface qui se forme sous des volutes de vapeur géante, des espèces de geysers. Et là, on s'aperçoit que même si un objet qui est très éloigné du Soleil peut avoir donc de l'eau liquide. C'est très important parce qu'on peut extrapoler ces connaissances vers les planètes d'autres étoiles et voir à ce moment-là que la zone habitable dans laquelle les planètes pour lesquelles il faut éventuellement chercher la présence d'une vie, eh bien, les conditions s'élargissent.
Nous en étions à l'année 2009, nous passons maintenant à l'année 2010. Jean-François Pellerin.
Peut-être une chose sur la vie. Moi, j'ai toujours retenu CHON, il faut du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et de l'eau à l'état liquide à une certaine température. Et il faut être dans une zone d'habitabilité par rapport à une étoile Soleil. Vous voyez, nous, on est positionnés à environ 150 millions de kilomètres. Je crois que c'est jusqu'à Mars, quasiment, on parle d'une zone d'habitabilité. Et dans les recherches, par exemple, pour les exoplanètes, on est en train de faire des recherches de planètes potentiellement en zone habitable, comme c'est le cas des planètes telluriques du système solaire, par rapport un petit peu à notre vision aussi, qui est totalement terrestre, parce qu'on peut très bien, pourquoi pas, imaginer des fondements d'une vie sur d'autres bases chimiques et physiques.
Ensuite, après l'année 2010, nous avons l'année 2011, et cette année-là, c'est une année importante, puisque c'est là qu'on a le dernier vol de navette américaine, Jean-François Pellerin.
Voilà, alors 2011, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une génération de vaisseaux spatiaux, c'est la 135e mission de la navette spatiale américaine, et c'est pratiquement quasiment 30 ans, jour pour jour, après le premier vol dont le commandant était John Young, qui vole le 12 avril 81, donc le premier véhicule de l'espace semi-réutilisable, avec un énorme planeur qui rentre dans l'atmosphère et qui se freine progressivement pour pouvoir ensuite se poser sur une piste. Donc il y a eu 135 missions et 30 ans de missions d'un engin spatial qui est la navette spatiale. Jamais un programme habité aura été aussi long, si on prend aussi le programme Soyuz qui existe depuis environ 47 ans. Un lien, cette même année, on fait voler pour la première fois une fusée Soyuz en Guyane. C'est le 21 octobre 2011.
Tout à fait, oui. Alors là aussi, qui marque une avancée. Alors, on peut expliquer pourquoi, en fait, on a choisi de lancer Soyuz en Guyane plutôt que...
Parce qu'avec les Ariane, on était dans des gammes de satellites très lourds à lancer sur la fameuse orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Vous savez, à ces altitudes, vous êtes un objet apparemment fixe par rapport à un point au sol. C'est idéal comme position pour faire des transmissions, des communications. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très loin de l'équateur avec la Guyane. Et pourquoi la fusée Soyuz en fait? Parce qu'elle envoie des charges, des satellites beaucoup moins lourds et elle est sur une autre gamme de satellites.
On va s'interrompre une nouvelle fois pour une nouvelle pause musicale et auparavant on va encore écouter quelques messages d'anciens invités d'À toi les étoiles. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite.
Décembre 2004, décembre 2014, À toi les étoiles, fêtes ses 10 ans.
Bonjour Didier Valiant, j'avais participé à une émission à Toi les étoiles en 2008 à propos du site internet que j'avais créé concernant l'astronomie. Alors j'en garde un très très bon souvenir et je suis incroyablement surpris et étonné que l'émission soit encore là et que en 2014 il y ait encore quelques émissions qui parlent d'astronomie et À toi les étoiles est une des rares émissions scientifiques et particulièrement sur l'astronomie qui existe dans le paysage radiophonique aujourd'hui. Et je souhaite que cette émission puisse continuer encore au moins 10 ans et qu'il y ait de plus en plus de passionnés qui écoutent cette émission, qui se tiennent informés des dernières découvertes, qui se passionnent pour l'observation des étoiles, qui souhaitent photographier, qui souhaitent découvrir tout ce qu'on découvre sur l'univers. Et je voulais féliciter Franck pour cette magnifique émission et lui souhaiter bon anniversaire pour ses 10 ans et surtout que ça continue avec autant de passion et ça sera super.
Bonjour, c'est Laurence Honora. Tout d'abord, je souhaite un joyeux anniversaire à cette belle émission qui est À toi les étoiles et je remercie chaleureusement tous les participants, tous ceux qui donnent leur énergie pour faire avancer cette extraordinaire aventure qu'est l'exploration spatiale. Et l'engouement du public est là. Et de plus en plus, comme en témoigne l'actualité d'ailleurs de ces derniers jours, et j'ai pu constater l'intensité avec laquelle l'atterrissage de Philae a été suivi le 12 novembre dernier. La grande satisfaction à l'annonce de l'accord européen pour la construction d'Ariane 6. Et on assistait au lancement réussi de la fusée japonaise H2A qui emporte avec elle la sonde Hayabusa 2 pour un rendez-vous en 2018 avec un astéroïde primitif. Et oui, tout ceci n'est ni plus ni moins qu'excellent. Alors je dis longue vie à l'émission À toi les étoiles, où je vous retrouverai, je l'espère, avant 2018 pour vous donner des nouvelles de Out of Atmosphere. Alors un grand bravo à tous encore et à bientôt.
Bonjour, je suis Jean-François Grelier de l'ANPCEN, correspondant pour le 95. J'étais passé dans l'émission À toi les étoiles en 2008 pour donner toutes les actions de l'ANPCEN, tant sur le plan national que sur le département. Et j'avais beaucoup apprécié nos échanges avec Franck, et ce dont je le remercie. J'écoute régulièrement cette émission et je suis très très content qu'aujourd'hui nous puissions fêter ensemble ces 10 ans.
Idée. Décembre 2004, décembre 2014, À toi les étoiles, fête ses 10 ans.
Bonsoir Franck, bah, écoute, j'ai été reçu une fois pour parler de mon club d'astronomie, Quasar 95, et je te remercie, parce que en fait, je trouve que les gens ne s'intéressent pas suffisamment aux sciences en général, et l'astronomie en particulier, et je rêve d'un monde où, comme à la fin du 19e siècle, énormément de gens s'intéressaient à l'astronomie, parce que les sciences à l'époque étaient synonymes de progrès, mais je pense qu'elles le sont toujours. Il n'y a qu'à voir la sonde Rosetta, par exemple, qui est quelque chose d'extraordinaire. Bonne continuation à l'émission, et puis merci de m'avoir accueilli.
Bonsoir Franck, et bonsoir les auditeurs. C'est Régis Courtin de l'Observatoire de Paris, et depuis 5 ans, je crois, j'ai eu le plaisir de participer à 3 émissions. Chaque fois, ça a été un plaisir. C'est vraiment un hôte extraordinaire. Je crois que c'est en plus une œuvre très utile en mettant les connaissances sur le spatial et sur l'astronomie accessible à tous. Je souhaite un très bon anniversaire à l'émission.
Bonjour Franck, Alain Siroux à l'appareil. Je suis le directeur de Ciel et Espace et je voulais fêter ces 10 années par de bravo. Le premier bravo, c'est pour toi évidemment, pour ces 10 ans de passion, d'enthousiasme, de métier, parce que c'est un vrai métier que de faire passer des notions à la radio, d'interviewer les gens, de leur faire sortir ce qu'ils ont vraiment dans leur cœur et dans leur trip. Et ça, Franck, 10 ans, c'est une très belle aventure que tout le monde te doit. Le deuxième salut, c'est pour Radio Anguin. Je suis bien placé pour savoir que programmer des sciences à la radio, des discussions sur les sciences, la présentation de sciences, c'est quelque chose qui n'est pas trivial et qui n'est pas si facile que ça à trouver. Cette constance dont tu as bénéficié et dont les auditeurs ont pu profiter pendant cette décennie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer au niveau de la direction des programmes et de ces personnes qui ont jugé qu'il y avait suffisamment de matière et d'intérêt, d'enthousiasme pour ce sujet. Et puis, pour souffler ces 10 bougies, peut-être un vœu, le vœu des années qui viennent, qui, plus que jamais, nécessite des passions comme la tienne, Franck, et comme ceux qui te soutiennent. Il y a beaucoup d'enjeux pour le futur. L'exploration du système solaire, la découverte d'autres mondes, peut-être de la vie sur les exoplanètes, c'est pour le futur, un futur lointain. Et tout ce qu'on n'a pas prévu, tout ce qu'on n'a pas imaginé qui va ponctuer les futures émissions d'À toi les étoiles. Alors, peut-être un dernier petit mot pour parodier Woody Allen lorsqu'il disait « Je m'intéresse beaucoup au futur et à l'avenir parce que c'est là que j'ai décidé d'habiter. » Eh bien, ce que je crois aujourd'hui, c'est que là où nous avons, nous, les auditeurs, décidé d'habiter, c'est-à-dire le futur, nous t'y retrouvons et ce sera toujours avec plaisir. À tout bientôt.
Retour ici au château de la Doucette pour cette émission À toi les étoiles. On célèbre les 10 ans de cette émission À toi les étoiles en public. Et puis je vous rappelle que le thème est rétrospective, 10 ans d'aventure spatiale avec comme invité Daniel Briot qui est astronome à l'Observatoire de Paris et la marraine d'À toi les étoiles et puis le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Pour célébrer les 10 ans d'À toi les étoiles, sachez, chers auditeurs, que nous allons vous gâter en vous proposant de gagner plein de cadeaux. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant appeler au 01 34 12 12 22. Le standard est ouvert, il y a quelqu'un qui est là et qui attend vos appels. Alors nous poursuivons ensuite avec l'année 2012. Des choses intéressantes aussi qui se sont passées durant cette année 2012. Là, on a un deuxième et dernier transit de Vénus devant le Soleil pour le 21e siècle.
Voilà. Alors, le premier transit du 21e siècle, donc en 2004, était complètement visible à partir de la France. Celui-là, il y avait juste la fin du transit était visible à partir de la France. En fait, à Paris, il a fait mauvais. Donc maintenant, il faut attendre 2117 et 2125.
Jean-François Pellerin.
J'avais noté pour 2012, sur la base spatiale de Kourou, on a une nouvelle fusée, une fusée italienne Vega, pour des satellites beaucoup plus petits. Donc on va avoir progressivement Soyuz, Vega, on aura une Ariane 5 qu'on est en train d'améliorer et de faire évoluer, et on aura deux Ariane 6 à partir des années 2020. Tout ça parce que le marché des lancements de satellites est en train de bouger de partout et qu'il y a des entreprises qui sont en train de casser les prix. D'ailleurs, cette même année, il y a le premier amarrage d'une capsule de ce fameux Elon Musk, la capsule Dragon, qui démontre qu'une société privée est capable de venir s'amarrer sur une station spatiale, la station ISS. Peut-être autre chose sur 2012, la mort de Neil Armstrong,
voilà. Tout à fait. On a aussi les 50 ans du CNES en 2012. Oui. Et puis, on a le Very Large Télescope Interferometer, qui est pleinement opérationnel, et je crois que Daniel Bouillon voulait dire
quelques mots. Le Very Large Télescope Interferometer, VLTI, et donc un télescope européen, c'est 4 télescopes européens de 8,50 m qui est installé au Chili. C'est un instrument qui marche extrêmement bien. La part des Français est très importante dans ce télescope. C'est très important, l'astronomie, d'avoir des instruments de plus en plus gros, de plus en plus performants, parce que pour les objets relativement proches, on peut envoyer des sondes, des satellites, mais plus loin, on peut pas. Donc, il faut vraiment recueillir le plus d'informations possible qui nous est envoyée. Donc, c'est très important d'avoir des télescopes très grands.
Juste une petite phrase.
Oui.
Le 6 août 2012, l'arrivée de Curiosity.
Ah oui, tout voilà. À fait, oui.
Grande arrivée de Curiosity, où là, on fait pas une descente avec des systèmes d'airbag comme Spirit et Opportunity qui ont remondi au sol. C'est une descente sous système de, un genre de système de grue avec un immense parachute. Ça a permis de déposer au sol avec une grande précision et sans faire de casse. Un rover à 6 roues qui pèse près d'une tonne, la taille d'une Clio ou d'une Twingo, pour donner un ordre d'idée.
Nous passons ensuite à l'année 2013. Et alors cette année-là, on a la NASA qui confirme que la sonde Voyager 1 a bien atteint l'espace interstellaire. Donc là, c'est quand même quelque chose d'incroyable aussi.
Je vais parler du point de vue astronomique. Les sondes Voyager avaient été lancées donc il y a très longtemps. Et un des arguments pour lancer ces deux sondes, Voyager 1 et Voyager 2, était que les planètes géantes étaient toutes dans la même partie du système solaire, dans le même endroit. Donc les sondes ont pu à ce moment-là aller d'une planète à une autre. et reprendre de l'énergie d'une planète avant d'aller à l'autre planète. Quand on a eu les résultats année après année, c'était une chose absolument extraordinaire. À chaque fois, c'était complètement fabuleux.
Jean-François Pellerin, on a eu aussi un astromobile qui s'est posé sur la Lune en 2013.
En fin d'année 2013, véritable exploit des Chinois, parce que vous savez que les Chinois ont un programme lunaire ambitieux, puisqu'ils envisagent entre 2025 et 2030 d'envoyer des taïkonautes. Depuis 1976 et Luna 24, il n'y avait pas eu un atterrisseur en douceur, et surtout, il n'y avait pas eu un rover qui est descendu au sol, qu'un rover chinois... On avait surnommé le lapin de Jade. On a eu un certain nombre de données, de photos, des photos panoramiques. Alors vous savez que vous avez des nuits de, c'est combien, c'est 14 jours sur la Lune, tous les 15 jours.
Oui.
Donc vous descendez à des périodes de très basse température. Et le petit rover, il avait une durée de vie d'au moins 3 mois. Mais il s'est avéré qu'il a rencontré des difficultés. Il s'est pas recroquevillé complètement pour garder une chaleur sur le petit rover. Donc il a été paraplégique, il pouvait plus se déplacer.
Nous passons à la dernière année, l'année 2014. Alors cette année-là, qui va bientôt se terminer dans quelques jours, là aussi il s'est passé des choses très intéressantes.
2014, après 10 ans de voyage, c'est l'arrivée de Rosetta autour de la comète Chury, mise sur orbite le 6 août et descente le 12 novembre du petit atterrisseur Philae. Donc, grand événement.
Ce qui est très étonnant, c'est que quand il y a un événement comme ça, qu'on l'a vu par exemple pour Titan, ça s'est très bien déroulé, c'était très très beau, point de vue technique et de tous les points de vue, c'était magnifique. Mais maintenant, il faut comprendre que les résultats qui vont être obtenus, qui continuent à être obtenus, c'est des années de travail pour les astronomes, avant d'en tirer des conclusions, avant de faire des publications scientifiques, etc.
Autre événement qui passait un peu sous silence, c'est le 31 octobre. Il y a un tour de Lune complet, un vol Terre-Lune qui a été fait en vol automatique, inhabité, avec quelques échantillons au niveau végétal à l'intérieur de la capsule. Les Chinois sont rentrés sur Terre après un vol Terre-Lune complet.
On arrive quasiment au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'avenir ? Parce que bien évidemment, l'aventure spatiale est loin d'être terminée. Hein.
Alors, on peut peut-être essayer de se projeter à 10 ans. Déjà, bon, nous fêtons les 10 ans d'Atoile les étoiles. Au même moment, nous fêtons les 10 ans de succès d'Ariane 5, sans échec, sans discontinuer depuis 10 ans.
C'est vrai. Oui.
Ce qui est une belle performance. Alors qu'au même moment, il y a des sociétés privées qui ont connu un coup dur, notamment la fusée Antares à la fin de l'année 2014. Que dire sur les prochaines années ? Vous avez certainement vu l'expérience du vaisseau Orion, dont l'objectif est d'un retour américain dans l'espace, dans le domaine du vol habité, puisque vous savez, depuis la fin de la navette spatiale en 2011, les Américains sont dépendants du Soyouz russe. Donc en 2017, on aura certainement des vols habités américains, peut-être avec la capsule de Boeing ou la capsule d'Elon Musk, la capsule Dragon version Dragon V2 Crew pour équipage. Et à partir de 2021, on aura l'immense lanceur américain SLS, 130 mètres de haut, avec la cabine Orion qui nous ouvre des opportunités de vols habités vers la Lune, vers des points d'équilibre gravitationnel, ce qu'on appelle les points de Lagrange, vers des astéroïdes ou vers Mars. Comment on peut se projeter encore à 10 ans si on se retrouve en 2024, 20 ans d'Atoile les étoiles, on aura peut-être le nom des astronautes chinois qui sont à l'entraînement pour aller marcher sur la Lune. Et en 2024, on sera très certainement pas très loin d'une grande mission qu'on espère pouvoir faire, d'un retour d'échantillons de la planète Mars. Pour l'Europe, on aura démarré nos Ariane 6, on fonctionnera encore avec une Ariane 5, et on aura plus de lanceurs. Donc on aura une gamme de lanceurs beaucoup plus ouverte, et on fera front de façon plus efficace au marché mondial qui va évoluer très très vite. Bon, c'est clair que 2024, on mettra pas le pied sur Mars. Pour moi, c'est encore trop proche. On pourrait dire plutôt les années 2030, entre 2030 et 2040.
Daniel Brio, rapidement.
Alors, on n'a pas parlé des radiotélescopes, et en particulier d'ALMA, qui est un radiotélescope. Alors là, il y a carrément énormément de pays qui sont dans la construction de ce radiotélescope, qui est en train d'être installé, qui a commencé, et qui a énormément d'antennes, et qui peuvent se déplacer, qui peuvent donc avoir des configurations différentes. Et la France est partie prenante là-dedans. Et les radioastronomes considèrent que ça va être, dans le domaine de la radioastronomie, aussi important que l'a été Hubble, le satellite Hubble pour l'astrophysique. On peut espérer que les Américains, donc quand Hubble sera hors de circuit, que le James Webb télescope sera créé. Maintenant, les planètes extrasolaires, comment des découvertes, bon, ben, on savait dès le début, les découvreurs, les premiers découvreurs savaient qu'il y en aurait des milliers. C'est un excellent exemple de chose qui a été découverte et qui a ouvert un nouveau domaine de l'astronomie. On se souvient de la découverte des quasars, de la découverte des pulsars, de la découverte des planètes extrasolaires. On vit une époque formidable, voilà.
Tout à fait. On arrive au terme de cette émission et j'ai demandé à Pierre-François Moriot, qui est très occupé, mais je voulais quand même qu'il dise deux mots dans cette émission, ce qui va se passer jusqu'au 4 janvier 2015, ici au château de la Doucette.
Alors le château de la Doucette est un nouvel équipement culturel de la ville de Drancy qui depuis le mois de septembre accueille l'association Science Ouverte, qui est une association qui depuis longtemps fait des actions de terrain dans les quartiers de la ville, mais qui a une nouvelle mission qui est de s'intercaler dans la programmation culturelle du château pour proposer des événements autour des sciences et techniques, des ateliers réguliers aussi, puisqu'on a une salle d'activité où on accueille des classes. Donc on est en train de développer un certain nombre d'activités, de thématiques autour d'un Fab Lab. Et là donc on a un mois, le château pour nous, 600 mètres carrés à remplir, et la thématique qui a été retenue c'est les nouvelles technologies, et en particulier la robotique, les drones, les imprimantes 3D. Donc il y a toute une série d'animations qui sont proposées, mais aussi d'expositions avec des objets divers et variés, des drones militaires, civils, des robots recyclés qui sont des matériels d'animation. Il y a aussi évidemment des conférences, et puis pendant les vacances de Noël, il va y avoir des stages pour les jeunes, une sorte de cycle de conférences sur les grandes thématiques autour des sciences et des nouvelles technologies, un stage de construction de micro-drones, puisque c'est aussi une thématique forte pendant ce mois d'animation, et puis un dernier stage autour de la programmation informatique.
Merci en tout cas à la municipalité de Drancy et à l'association Sciences Ouvertes de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission 10 ans.
Vous êtes les bienvenus et venez nombreux jusqu'au 4 janvier. Merci.
Merci Pierre-François Moriot. On va conclure cette émission et on commence honneur aux dames. Hein. On va conclure avec Dania Brio.
C'est un peu difficile de conclure parce que moi je voudrais que ça justement qu'il n'y ait pas de conclusion et qu'on reprenne ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant l'avenir continue, l'avenir est devant nous et on s'attend et donc à faire encore autant de progrès et puis à se retrouver peut-être avant 10 ans quand même.
En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté d'être la marraine de cette émission.
Ah non, c'est un honneur, c'est un honneur. Et puis je souhaite des bonnes fêtes de Noël, des solstices d'hiver, c'est important, c'est astronomique, voilà. Avant d'être, c'est religieux aussi, mais c'est astronomique aussi, voilà. C'est le solstice d'hiver, donc pour tous les auditeurs.
Jean-François Pellerin.
La conclusion, donc, nous venons de passer en revue 10 ans de notre passé spatial. On a essayé de se projeter un petit peu dans les 10 prochaines années. Alors, que dire dans 10 ans? Ça serait peut-être très original, faire une émission 20 ans d'Atoiles les étoiles à bord du nouvel Airbus A310 de l'astronaute Jean-François Clairvoy, puisqu'il y aura un nouvel Airbus. Donc pour moi, le spatial, c'est une passion depuis 1972. Je suis venu souvent à Radio Anguien, souvent pour des anniversaires. Et je crois qu'il faut le dire, Franck Menant est certainement l'un des rares en France depuis 10 ans à faire avec autant de régularité, avec des invités venant de parcours aussi divers, une émission qui continue à avoir une très grande notoriété, puisqu'on entame la deuxième décennie.
Merci en tout cas Jean-François Pellerin d'avoir accepté d'être le parrain d'Atoiles les étoiles. Et on donne rapidement l'information que vous venez de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule « Sans invention tombée du ciel » préfacé par Jean-Loup Chrétien et c'est aux éditions A2C Média. On arrive au terme de cette émission « Atoiles les étoiles » spécial anniversaire. On célébrait les 10 ans d'Atoiles les étoiles ce soir.
Je voudrais remercier la municipalité de Drancy et l'association Science Ouverte de m'avoir accueilli ici au château de la Doucette. Merci à Pierre-François Moriot, merci à la direction d'IDFM Radio Anguin qui m'a fait confiance pour cette émission. Merci aux auditeurs qui me suivent depuis de nombreuses années et sans qui cette émission n'existerait pas. Merci aussi aux invités. Il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu 122 émissions et 139 invités. Merci à toutes celles et ceux qui ont laissé des messages sur le répondeur d'À toi les étoiles. Et merci à tous les partenaires qui ont donné des cadeaux à faire gagner ce soir dans cette émission. J'ai pas le temps de tous les nommer, mais qu'ils en soient remerciés. Merci également à Aurélien Flay, qui a été le réalisateur de cette émission À toi les étoiles ce soir. Et merci au public qui est venu assister à l'enregistrement de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien et je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.
Oh oh oh, joyeux Noël!
IDFM vous souhaite un joyeux Noël. IDFM, 98 FM en Ile-de-France.